Il est 7h. Pompiers, policiers, SAMU en grande partie injoignables. Hier soir, la faute à une panne chez Orange. L'opérateur assure ce matin que le problème est réglé. Le point en direct dans un instant avec la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Dans ce journal aussi, la carte postale d'Emmanuel Macron dans le Lot. Le projet de portefeuille numérique de l'Europe, un peu comme le pass sanitaire. Tous nos papiers d'identité accessibles depuis notre téléphone. Et puis pas de but, mais un retour tonitruant en bleu hier pour Karim Benzema. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Il y a 2 ans, Donald Trump sanctionnait le géant chinois des télécoms Huawei pour l'affaiblir technologiquement. 2 ans plus tard, c'est tout l'inverse.
Suivi du regard international, Vincent Hervouet. On va reparler des Bleus aussi dans l'édito sport de Virginie Fulpin.
Et on adore que les Bleus gagnent des matchs, mais ça nous défrise qu'ils gagnent de l'argent. Avouez que c'est bizarre, tant mieux s'ils gagnent des primes pour l'euro.
Et puis juste avant 7h30, on retrouve bien sûr Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Il reçoit un appel toutes les secondes, avec un pic le soir vers 19h. Sauf qu'hier, à cette heure-là, le SAMU était aux abonnés absents. Les appels au 15, comme au numéro d'urgence de la police et des pompiers, perturbés dans de nombreuses régions. Mais Orange, à l'origine de la panne, assure ce matin que le réseau est rétabli.
On va y revenir dans un instant avec vous, Emmanuel Duteil. Bonjour.
Bonjour.
Mais d'abord, on va vérifier les dires de l'opérateur avec la porte-parole du ministère de l'Intérieur ce matin en direct sur Europe 1. Bonjour Camille Chaise. Vous me recevez Camille Chaise, bonjour. Oui, vous confirmez le 17 et le 18, les numéros d'urgence de la police et des pompiers fonctionnent à nouveau ? Petit souci de liaison avec Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, qu'on va essayer de joindre.
On va donc se tourner vers vous, Emmanuel Duteil. Hein. Orange assurait donc avoir rétabli le réseau. Malgré tout, l'opérateur a su rester vigilant. Hein.
Oui, en effet. Ce que l'on craint chez Orange, qui gère les équipements qui permettent à ces numéros de fonctionner, c'est ce que l'on appelle la montée en charge. Alors, si on traduit, ça veut dire est-ce que le réseau va tenir là ce matin une fois que tout le monde passera un coup de fil normalement ? Et là, au moment où on se parle, même si des équipes ont travaillé d'arrache-pied pour régler le problème, Orange n'est pas capable de répondre oui à 100%. En tout cas, pour tirer les leçons de cette coupure assez inédite, hein, une réunion au plus haut niveau va avoir lieu là, assez tôt ce matin. Signe de l'importance du sujet, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est rentré en urgence de Tunisie, où il accompagnait en déplacement officiel le Premier ministre. Seule certitude pour le moment, il s'agit bien d'un incident technique sur un équipement chargé d'acheminer les réseaux. Pour couper court à toute rumeur, à toute interprétation, il ne s'agit en rien d'une potentielle cyberattaque, assure-t-on ce matin chez Orange.
Merci Emmanuel Duteil, on a retrouvé en direct avec nous Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Bonjour Camille Chaise.
Bonjour.
Alors vous confirmez ce matin le 17, le 18, ces numéros d'urgence dont on parle, ils fonctionnent à nouveau ?
Alors ce que nous a dit Orange dans la nuit, c'est que l'acheminement était désormais quasi normal avec des flux d'appels qui se rapprochaient des trafics normaux. Néanmoins, on est extrêmement vigilants. On reste prudent et attentif à toute perturbation qui pourrait avoir lieu dans les heures qui viennent.
Est-ce que vous êtes déjà capable de dire, Camille Chaise, combien d'appels n'ont pas pu aboutir avec cette panne ?
Non, c'est encore un petit peu trop tôt. Il n'y a pas d'estimation à ce stade sur les conséquences en termes humains. Mais l'heure maintenant va être au bilan, à la compréhension aussi des process. Nous, on a mis en place les procédures de secours telles qu'elles existaient avec notamment la mise en place de numéros de téléphone à 10 chiffres dans tous les centres de secours, tous les commissariats, toutes les brigades de gendarmerie. On a hier, dès qu'on a eu connaissance de l'incident, communiqué sur ces numéros alternatifs.
Et on peut continuer de les appeler ce matin ?
Exactement ce qui s'est passé. Alors oui, on peut refaire les numéros habituels, 17, 18, 112, 15, mais il faut encore conserver ces numéros alternatifs quelques heures. Ils ont été diffusés très largement au niveau national, sur les comptes Twitter notamment, au niveau départemental ou local. Donc il faut conserver ces numéros le temps qu'on soit 100% certain que cette panne technique et cet incident de l'opérateur Orange est totalement derrière nous.
Et ces numéros longs sont des numéros locaux. Hein. Il faut les retrouver sur les réseaux sociaux de ces organismes, la préfecture, les pompiers évidemment. Merci Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur en direct dans le journal de 7h d'Europe 1 ce matin.
Et on reviendra évidemment tout à l'heure sur la prise de parole de Gérald Darmanin prévue dans les prochaines minutes. Une annonce et une date, c'est à partir du 15 juin que les adolescents dès 12 ans pourront se faire vacciner sur la base du volontariat et avec accord parental et sur la vaccination toujours, un calendrier adapté en vue des grandes vacances. La deuxième injection pourra se faire dans le même centre que la première entre 6 et 8 semaines contre 7 actuellement.
Et sur la vaccination toujours.
Un président presque déjà en campagne et une opposition qui s'agace, deuxième jour du déplacement d'Emmanuel Macron dans le Lot. En pleine campagne pour les régionales, le Rassemblement National demande au CSA de décompter les sorties présidentielles, estimant qu'elles relèvent du débat politique. La présidente de la région Île-de-France, elle, s'est dite choquée du lancement de cette série de déplacements à 3 semaines d'une élection.
Bonjour Jean-Rémy Baudeau.
Bonjour à tous.
Alors vous suivez pour Europe 1 le chef de l'État dans ce déplacement qui a des airs de campagne.
Oui, Emmanuel Macron a débuté son tour de France par une étape plutôt simple, un village qui a massivement voté pour lui en 2017. Près de 78% des électeurs au second tour. Un cadre digne des plus belles cartes postales. Un maire de gauche soutien de la première heure. Pas franchement de prise de risque. Emmanuel Macron qui s'est justifié hier. Je veux retourner au contact, connaître les angoisses des Français, la France en direct. Voilà quelques-unes des citations du président. Un exercice où le chef de l'État s'affiche à l'écoute, empathique, il réclame de la bienveillance, se dit d'un optimisme raisonnable sur l'issue de la crise sanitaire. Il semble loin, le Macron dépeint comme arrogant. Je n'ai pas d'idée cachée, promet-il. Emmanuel Macron parle surtout de relance, fin du quinquennat, mais manifestement il pense un peu plus loin encore, réfléchit à de nouvelles réformes. Dans le Lot, Emmanuel Macron est venu annoncer un plan de reconquête pour le tourisme, mais ce Tour de France débuté hier ressemble surtout un plan de reconquête de son électorat.
Jean-Rémy Baudeau dans le Lot pour Europe 1.
7h07, nouvelle violence dramatique hier entre jeunes, un adolescent de 14 ans entre la vie et la mort à Reims après avoir été poignardé.
Par un élève du même âge scolarisé dans le même établissement, affrontement sur fond de harcèlement comme l'a découvert l'envoyé spécial d'Europe 1, Roman Hockey.
Il y a déjà eu des bagarres entre deux. Là, il y en a eu une lundi au début de la semaine, mais pas à ce point-là, quoi. Le drame qui est arrivé hier.
Un énième règlement de compte à cause d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, raconte ce camarade. Des tensions visibles aussi dans la cour de récréation où Nelson était témoin des humiliations subies par l'adolescent poignardé.
Il se faisait harceler, beaucoup d'insultes. Ouais, t'es une merde, suicide-toi, des choses comme ça, quoi. Il a critiqué sur son poids, sur ses origines, etc. C'est vraiment le point de départ, en fait.
L'agresseur, un garçon dissipé, souvent exclu de cours, note Valérie, parent d'élève, stupéfaite par son âge.
Oui, alors, c'est pire quoi. Alors là, 14 ans, c'est mon mien a déjà 15 ans. Je me dis, bon voilà, c'est quand même des enfants, ils sont à notre charge, ils sont quatrième, c'est un truc de fou quoi. C'est vraiment trop jeune.
De grands enfants scolarisés dans l'un des plus prestigieux collèges de Reims, précise le maire Arnaud Robinet.
C'est un établissement privé catholique, sans problème, qui d'ailleurs accueille de nombreux élèves parisiens en pension. Cette violence aujourd'hui chez les jeunes touche toutes les classes de la société.
Y compris des adolescents jusque-là inconnus des services de police. Reims, Roman Hockey, Europe 1.
L'agresseur présumé, inconnu justement des services, a été placé en garde à vue. Une jeune fille de 14 ans qui a filmé la scène est elle aussi entendue.
Le contenu de votre portefeuille, bientôt mémorisé dans votre téléphone portable. L'Union européenne présente aujourd'hui son projet d'identité numérique.
L'idée, Isabelle Horry, vous êtes la spécialiste des affaires européennes pour Europe 1. L'idée, c'est de rassembler en version dématérialisée tous les documents qu'on transporte avec nous au quotidien.
Oui, aujourd'hui, nous avons tous un portefeuille avec carte d'identité, permis de conduire, carte vitale. Eh bien, Bruxelles veut nous en proposer un autre, électronique et sécurisé, celui-là, accessible sur nos téléphones. À l'intérieur, les informations figurant dans nos documents, authentifiées officiellement par les autorités. Ça veut dire que vous pourrez prouver dans le monde virtuel que vous êtes bien vous ou que vous conduisez bien. C'est utile pour signer un document, pour louer une voiture ou ouvrir un compte en banque à distance, y compris ailleurs en Europe. Et puis actuellement, quand vous voulez souscrire un abonnement en ligne, on vous propose souvent de le faire via votre compte Google ou Facebook. Là, ça deviendra possible via cette identité numérique. Vous ne fournirez plus vos données aux GAFA. Et d'ailleurs, c'est vous qui choisirez quelles données vous voulez communiquer, y compris dans le monde réel. Un exemple, pour entrer en boîte de nuit, votre téléphone vous permettra de prouver votre âge sans que le videur qui le scanne voit votre adresse ou votre date de naissance. La Commission présente tout à l'heure sa réglementation. Elle devra ensuite être adoptée par le Parlement européen et par les États membres.
Les précisions d'Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1.
Le foot à présent et la victoire des Bleus hier soir, 3-0 contre le Pays de Galles.
La préparation pour l'Euro commence bien. Cyril de la Morinerie, vous nous avez fait vivre ce match hier soir sur Europe 1 et ça a bien commencé aussi pour Karim Benzema, même s'il n'a pas marqué hier soir.
Oui, Karim Benzema s'est montré très à l'aise avec les Bleus. L'attaquant de 33 ans a multiplié les passes et affiché sa bonne entente avec Griezmann et Mbappé notamment. Sa technique impressionnante et ses gestes de grande classe ne sont pas passés inaperçus. Bien sûr, le Français a raté un pénalty qu'il avait lui-même obtenu, mais Karim Benzema préfère retenir le positif au micro de TF1.
Très bonne sensation, avec une bonne semaine de travail, de physique. Je me suis bien senti tout au long du match. Je suis monté en puissance, donc c'est de bonne augure pour la suite.
Karim Benzema qui a tiré à 9 reprises durant le match a même touché le poteau. Mais le sélectionneur Didier Deschamps ne lui en tient pas rigueur.
Un attaquant ou un offensif, marqué, c'est concrétisé. Mais forcément, avec son registre, sa palette élargie, ça a permis à l'équipe de la France d'avoir une maîtrise. Et le fait d'avoir de la complémentarité avec ses partenaires.
La grande star devra encore attendre avant d'inscrire un 28e but en bleu. Karim Benzema aura sans doute une nouvelle chance mardi prochain. Les Bleus recevront la Bulgarie au Stade de France.
Les Bleus qui, pour leur premier match de l'Euro le 15 juin, affronteront l'Allemagne. La Mannschaft qui a fait match nul un partout hier soir contre le Danemark.
Merci Marion Calais. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
C'est un partenariat européen, la sortie aujourd'hui du 17e album de Titeuf, La Grande Aventure. Le garçon de 10 ans en colonie de vacances, épisode garanti sans Covid, mais déjà une promesse. Accompagnez vos enfants, tiens, dans les grandes vacances à venir. Le dessinateur Zep est mon invité à 7h40, tout à l'heure, le tête-à-tête Europe Matin. Tout de suite, l'éclairage écho, Nicolas Barré, juste avant le regard international de Vincent Hervouet.
Oui, Jean Castex et une demi-douzaine de ministres en Tunisie, un pays à bout de souffle et un Premier ministre les mains vides.
Bon réveil à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h13 sur Europe 1, l'éclairage écho avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Il y a 2 ans, Donald Trump privait le géant chinois Huawei d'accès aux technologies américaines. 2 ans après, les États-Unis risquent de s'en mordre les doigts.
Oui, cette histoire est assez édifiante. D'ailleurs, je vous le disais à l'époque, l'arme des sanctions est à double tranchant. Elle peut profiter à ceux qu'on veut sanctionner. On le voit ici, 2 ans après les sanctions, eh bien, Huawei a présenté hier en grande pompe un nouveau système d'exploitation pour ses smartphones. Car à cause de la décision de Donald Trump, les propriétaires de téléphones Huawei ne pouvaient plus accéder à Android, le fameux système d'exploitation de Google qui équipe 8 smartphones sur 10 dans le monde. Plus précisément, ils ne pouvaient plus faire de mise à jour et donc accéder par exemple à YouTube ou à Google Maps.
Ce qui peut être handicapant. Alors c'est gênant et les ventes de Huawei se sont effondrées.
Ah, tout à fait. En Europe par exemple, Huawei est passé de 20% du marché il y a 2 ans à 2% aujourd'hui. Donc on peut dire que les sanctions américaines ont été efficaces. Sauf que Huawei du coup a mis les bouchées doubles pour développer une alternative à Android et c'est cette alternative qu'il a présentée hier, c'était ça ou mourir. La contrainte des sanctions a eu pour effet non pas de tuer Huawei, mais de le stimuler, de stimuler sa recherche, de le rendre encore meilleur. Résultat, eh bien, avant les sanctions, 2 systèmes logiciels américains dominaient le monde des smartphones, 2 seulement, Android de Google, iOS d'Apple. Eh bien après, ou je devrais dire grâce aux sanctions de Donald Trump, 1/3 arrive et il est chinois.
Et je pense qu'on peut dire sans se tromper que c'est le contraire de ce qu'avait voulu l'ancien président américain.
Ah bah, Trump, du coup, a rendu la Chine plus indépendante technologiquement des États-Unis. Huawei, pour ça, a investi l'an dernier plus de 18 milliards d'euros dans la recherche et développement. C'est presque 5 fois le budget du CNRS quand même. Hein. Près d'un salarié sur 2 de Huawei est affecté à la recherche et développement. Alors que montre cette histoire ? Bah, qu'il n'y a pas de fatalité. L'Europe, d'ailleurs, a accumulé beaucoup de retard dans l'électronique, dans les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, etc. La leçon de Huawei, c'est qu'en mettant les bouchées doubles dans la recherche et en investissant massivement, aucun retard n'est irrattrapable dès lors qu'on dispose de bons ingénieurs et de chercheurs. C'est le cas des Chinois, c'est le cas aussi des Européens, à condition bien sûr que les meilleurs ne partent pas aux États-Unis.
Et j'en reviens à ce que vous disiez, les investissements de Huawei l'an dernier, 5 fois le budget du CNRS. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Il est 7h15. Et nous retrouvons Vincent Hervouet pour le regard international. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Le Premier ministre est en Tunisie pour un séminaire intergouvernemental.
Oui, il est 6h du matin, 21 degrés, pas un nuage, et il faudrait que Jean Castex profite à plein du petit paradis de la résidence de l'ambassadeur de France à la Marsa pour son petit déjeuner. C'est son premier voyage à l'étranger depuis qu'il est à Matignon. L'Algérie, il y a 2 mois, lui avait claqué la porte au nez. Les Tunisiens ne lui feront pas de scène de ménage, ils n'en ont pas les moyens. Ils sont tellement accablés de problèmes insolubles qu'ils sont prêts à se raccrocher à n'importe qui, même Jean Castex. La déroute économique, le tourisme encore plombé par le Covid, la scène politique atomisée, la menace islamiste qui fait regretter Ben Ali, le désespoir qui monte. Pour Jean Castex, ce matin clair sous les palmiers, c'est le meilleur moment de la journée.
Alors qu'est-ce qui peut lui gâcher le voyage ?
Tout. Même la mer tranquille dans la station balnéaire hier, l'armée tunisienne a repêché au large 70 Africains, les 123 cadavres dérivés entre deux eaux. Les migrants avaient embarqué en Libye, le pays que la France a précipité en enfer. La reconstruction de la Libye, c'est le mirage dont se bercent les Tunisiens, comme la démocratisation de la Libye avait été celui des Français. La Tunisie est un pays qui serre le cœur, il serre aussi la gorge. La Tunisie étouffe. Avec le Covid, les Tunisiens ont découvert, comme les Français, que le système de santé dont ils étaient si fiers est à bout de souffle. Peu de tests, très peu de vaccins, 12 700 morts pour 12 millions d'habitants, les médecins épuisés, prêts à s'enfuir à l'étranger, et la technocratie locale qui raconte n'importe quoi.
Avec la troisième vague, il manque d'oxygène.
Emmanuel Macron a promis des unités autonomes de production d'oxygène. C'est ce que Jean Castex aurait dû mettre dans ses bagages. À la place, il est venu avec une demi-douzaine de ministres, celui des Affaires étrangères, bien sûr, mais pas celui de la santé. Celui de l'intérieur est déjà reparti, avec celui de la transition numérique, à cause de la panne d'Orange. Il y a aussi les ministres de l'enseignement supérieur, des transports, des PME. Des sujets très importants, évidemment. Sauf que la Tunisie se noie. Elle a besoin d'un milliard ou deux tout de suite. La France ne les a pas. Ces ministres sont comme sur le pont du Titanic, à nettoyer les transats ou à choisir la couleur des stores.
Vincent Hervouette, le regard international. Merci Vincent. Il est 7h18 sur Europe 1. Dans un tout petit instant, l'édito sport, Virginie Fulpin, juste après notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern.
Tout part en eau de boudin, mais d'où vient cette expression?
La réponse dans un instant, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h20 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les Bleus sont prêts pour l'Euro, ils ont battu le Pays de Galles 3-0 hier soir à Nice. Autant on admire cette équipe de France sur le terrain, autant tout ce qui touche aux primes des joueurs en cas de victoire fait polémique à chaque fois. Pour vous, ça devient fatigant. C'est normal que les joueurs touchent des primes, mais ils seront obligés de reverser cet argent.
Ouais, ça devient insupportable, ces polémiques. On est champion du monde de foot, mais notre vrai sport national, en fait, c'est la critique bête et méchante de tout ce qui touche au ballon. Et dès qu'il s'agit de l'équipe de France et des primes, là, c'est le combo gagnant. Les chiffres sont sortis dans le Parisien. Les Bleus toucheront une prime s'ils se qualifient pour les huitièmes de finale de l'Euro. Ce sera progressif jusqu'à 340 000 euros chacun en cas de victoire finale. Heureusement que les bistrots ont rouvert, ça permet de s'épancher sur le fait que ça rapporte beaucoup d'argent de jouer à la baballe. Ouais, on est bien avancé avec ce genre de réflexion. Quoi ? Le football générerait beaucoup d'argent et moi, personne ne m'a rien dit ? Qu'est-ce qu'il y a de choquant ? En fait, il se trouve que l'UEFA gagne des sommes astronomiques avec l'euro. Entre les droits télé, les revenus commerciaux et la billetterie, l'édition 2016 a par exemple rapporté près de 2 milliards d'euros. L'UEFA en verse une partie aux fédérations participantes qui ensuite accordent des primes à leurs joueurs. C'est quand même on ne peut plus normal que les acteurs du foot, ceux pour qui on regarde cet euro, aient droit à leur part du gâteau, non ? Personne n'a jamais demandé aux contribuables de sortir un centime de sa poche, et heureusement d'ailleurs. Donc on cherche vraiment la petite bête là où il n'y a rien à critiquer.
Le problème, c'est qu'avec la crise sanitaire et la crise économique qui en découle, ces sommes peuvent choquer.
On ne peut pas non plus demander à l'UEFA déjà ou aux fédés nationales et aux joueurs de sauver le monde, ce n'est pas exactement leur rôle. En revanche, oui, ils auront une obligation avec ces crimes.
J'ai peur
que ce ne
soit pas très efficace surtout. Si on leur demande à eux de changer le monde. Mais bon.
C'est possible. Mais ils auront une obligation morale, celle de reverser ces primes au football d'en bas, comme on dit. Les clubs amateurs viennent de vivre une saison en enfer avec la crise sanitaire. Certains sont au bord du gouffre financièrement. Ils ne savent pas s'ils récupéreront leurs adhérents à la rentrée. Les joueurs de l'équipe de France viennent de ce monde amateur, à la base. Il va falloir qu'ils s'en souviennent et fassent don de ces primes aux petits clubs. Mais je vais vous dire, franchement, je ne suis pas inquiète. Certains avaient déjà reversé leurs primes après la Coupe du Monde 2018. Et aujourd'hui, en fait, ils n'ont plus le choix. C'est une question d'image. Et ils sont tellement attendus au tournant sur ces questions-là qu'ils ne pourront pas faire autrement que de distribuer ces primes. Alors, j'ai une idée. On va encourager les Bleus. Plus ils iront loin à l'euro, plus il y aura d'argent à redistribuer. Tout le monde est content,
oui,
non ?
Comme ça, c'est bien vu. Effectivement, plus ils iront loin, plus il y aura d'argent. Et c'est vrai qu'on peut questionner le système. On a parlé cette année du fiasco Media Pro, de l'argent dans le football. Mais,
mais
tant qu'à faire, s'il y a de l'argent dans le foot, autant que les footballeurs en bénéficient eux-mêmes aussi. Virginie Fulpin, merci beaucoup. C'est l'édito sport et c'est tous les matins sur Europe 1. À 7h23. Je me tourne vers Stéphane Bern pour un mot d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous pour notre chronique du jour. J'espère particulièrement qu'elle va bien commencer, que son milieu sera intéressant et surtout que la fin ne partira pas en eau de boudin.
Ah oui, partir en eau de boudin, c'est donc l'expression du jour. Ça veut dire que ça finit mal, ça part en déconfiture, en eau de boudin. J'imagine qu'il sera question de cochon.
Oui, pardon. J'ai bien conscience que c'est plutôt l'heure des tartines beurrées. Mais on va effectivement parler charcuterie.
Oui, mais c'est bon le matin
À l'allemand. Depuis le Moyen-Âge, l'eau de boudin, c'est littéralement le bouillon de viande. Au XVIIIe siècle, il y avait même l'eau de poulet. Plus anciennement encore, on parlait d'eau de joue de bœuf. L'eau de boudin est dans la même veine, sans jeu de mots. C'est tout simplement l'eau de cuisson des boudins. Ce n'est pas à vous, Mathieu, que je vais apprendre que tout est bon dans le cochon, n'est-ce tout sauf l'eau de boudin, dont on ne peut absolument, mais alors absolument rien en tirer. Et c'est là qu'on en revient à notre affaire du début. On utilise l'expression pour qualifier une situation qui finit mal, mais sur qui on avait misé, mais qui ne donnera au final absolument rien. Alors oui, on peut dire que tout est bon dans le cochon. D'ailleurs, citons la chanteuse Juliette qui disait oui. « Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon, la rate et les rognons, la queue en tire-bouchon, tout est bon. » Tout est bon, sauf l'eau de boudin. Et pardon à nos amis véganes. Au Portugal, apparemment, on dit pour partir en eau de boudin, acabar un maguache de bacalhau, finir en eau de morue. Oui, c'est la spécialité là-bas.
Chacun sa spécialité.
En italien, c'est andare in fumo, ça part en fumée. On le dit aussi
ah
chez
oui,
nous.
Le jambon fumé, oui, c'est pas oui. mal.
En Angleterre, c'est to go down the drain, ça part à l'égout. C'est exactement ce qu'on faisait avec l'eau de boudin. Allez, finissons avec une pensée tendre de Cavanagh. La chenille devient papillon, le cochon devient saucisson. C'est une grande loi de la nature. Allez, requiescat in pace le cochon.
Rest in peace le cochon. J'aurais jamais cru dire une phrase pareille à l'antenne un jour, mais c'est chose faite grâce à vous, Stéphane Bern. On vous retrouve à 16h pour Historiquement Vôtre. Il est 7h25, dans un instant l'info et la météo. Bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h28 sur Europe 1 et Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Comment aurait dit Stéphane Bern aujourd'hui pour aujourd'hui ?
Ah, ça part en eau de boudin ? Ah, c'est ça, ça va nous tomber, le ciel va nous tomber sur la tête.
L'essentiel, c'est d'arriver à bon port. Alors, en ce qui concerne les températures de la journée, ce sont des températures bien sûr positives, largement positives. 21 à Rennes, 22 à Nantes, 23 à Nice, 25 à Angers, Marseille, Bordeaux, Nancy, Lille, Toulouse, Clermont-Ferrand, Poitiers, où sont entre 26 et 27. 28 à Strasbourg et Paris, et oui, et Guebwiller, dans le Rhin, ou le Marin. Non, je sais pas. 28 à Brice, à Brive.
En Alsace, en tout
et
cas.
Et à Tours. C'est 68, je sais pas. Regardez 68 pendant ce temps.
Ah non, attendez, vous me piégez.
Orageux. Orageux et averse sur la Bretagne, la Loire Atlantique, les côtes aquitaines et les côtes landaises. Val de Loire, Normandie, région parisienne, Limousin et Midi-Pyrénées, un matin calme. Et ensuite, les orages seront là, mais ce sont des orages isolés. Nord, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace et Bourgogne, nuages et des pluies de plus en plus violentes. Franche-Comté, région lyonnaise et bassin méditerranéen. Du soleil! Voilà! Vous avez trouvé
68 ?
Oui.
Le Haut-Rhin.
Ah, merci.
Enfin, je les inverse toujours, Haut-Rhin, Bas-Rhin.
Bah, le Bas-Rhin est en haut et le Haut-Rhin est en bas.
Mais c'est avec le masque, je ne vous ai pas entendu, Sophie Echen, bonjour.
Bonjour, Mathieu.
Elle est en train de me le souffler, elle est vexée parce que je n'ai pas repris tel quel.
C'est pas grave.
Mais non, mais je vous assure, Haut-Rhin, préfecture, Sophie Echen.
Colmar.
Oh, ok, j'ai plus de questions à poser. Merci, Laurent Cabrol, merci. Sophie Echen, vous restez avec nous, un nouveau journal, il est 7h30.
Nous, on habite ici à la frontière, donc c'est plus facile pour nous. Et puis, bien sûr, c'est gratuit ici. Tandis que chez nous, on paye 47 euros quand même.
Alors pourquoi privé. Nos voisins belges n'hésitent plus à faire quelques kilomètres de plus pour venir se faire tester chez nous, en France, gratuitement. Dans ce journal, bientôt la fin du 100% télétravail. On vous explique le nouveau protocole sanitaire en entreprise. 6 personnes mises en examen après avoir détourné du cannabis qui aurait dû être incinéré. Et puis 16 ans après, un duel Richard Gasquet et Rafael Nadal ce soir à Roland-Garros. Mais sans public, le match se déroulera à huis clos.
Juste après ce journal, La Touche Âme, c'est le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Le tête-à-tête Europe Matin avec Zep, le papa de Titeuf, pour la sortie de La Grande Aventure, un nouvel album dont Europe 1 est partenaire. L'édito politique de Nicolas Bétou.
Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on commence à s'inquiéter de la montée en puissance de CNews et ça provoque des réactions bizarres.
Enfin, avant 8h, Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk reçoit Sébastien Chenu, le député Rassemblement National du Nord, candidat au régional dans les Hauts-de-France. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le saviez-vous, la France est le seul pays européen à avoir instauré la gratuité des tests Covid. Le gouvernement en fait même un élément d'attractivité touristique. Et il faut croire que cela fonctionne avec un test PCR à près de 50 euros de leur côté de la frontière. De plus en plus de Belges désertent le plat pays pour venir se faire dépister en France, dans le département voisin du Nord. Lionel Gougelot.
Sur le parking de ce centre de dépistage près de Roubaix, une petite dizaine de voitures immatriculées en Belgique. Jean-Claude et son épouse prévoient un long week-end au Touquet. Et en attendant le passeport vaccinal, il leur faut un test PCR.
D'abord, nous on habite ici à la frontière, donc c'est plus facile pour nous. Et puis, bien sûr, c'est gratuit ici. Tandis que chez nous, on paye 47 euros quand même. Hein. Donc, quand on est à deux, ça fait quand même un restaurant, quoi.
Le prix d'un restaurant économisé, effectivement, c'est loin d'être négligeable. Autre avantage, m'explique Héloïse, le dépistage français est beaucoup plus simple, contrairement à ce qu'elle a pu expérimenter en Belgique.
J'ai dû appeler mon médecin traitant, il a dû m'envoyer un code, puis après une fois que j'ai reçu le code, j'ai dû appeler l'hôpital, prendre rendez-vous, tandis que là on est juste arrivé, on a fait le test, on est ressorti quoi.
Résultat en 24 heures et prise en charge 100% par la CPAM, alors Barthélémy, belge frontalier, profite un peu du système.
Vous avez sur le papier en fait une case qui dit est-ce que vous avez une carte de sécurité sociale. Il faut cocher non, pas de carte de sécurité sociale. Mais je pense que c'est pour les touristes en fait qui viennent en France. Comme on a cette opportunité-là d'être frontalier, on profite de cette opportunité-là pour les touristes en fait.
Et si le bouche à oreille fonctionne en Belgique, l'afflux dans les centres français reste mesuré, assure un responsable de laboratoire. Mais à terme, cela pourrait coûter très cher à la sécurité sociale. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et sur le front de la vaccination, les jeunes de 12 à 18 ans pourront bien recevoir une dose dès la mi-juin. Cela sera basé sur le volontariat uniquement et avec l'accord des parents.
Encore une étape dans la reprise des activités professionnelles. Le ministère du Travail a dévoilé un nouveau protocole sanitaire.
Et ce qu'il faut retenir, c'est que le 100% télétravail ne sera plus la règle, même si la mesure peut être considérée comme l'une des plus efficaces pour limiter la circulation du virus. Ce sera à chaque entreprise de définir ses propres règles. Olivier Samin.
Le nouveau protocole demande aux employeurs de déterminer un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les activités qu'ils permettent. Un jour, deux jours, trois jours, le nombre précis sera fixé dans chaque entreprise dans le cadre d'une discussion avec les représentants des salariés. Et le travail sur site restera soumis, lui, aux mesures barrières et règles de distanciation. Masque, un mètre entre chaque personne, aération des locaux et incitation à maintenir en vidéo ou en audio les réunions. Dans les restaurants d'entreprise, les règles seront moins dures qu'aujourd'hui. Bientôt fini le déjeuner seul à table avec 8 mètres carrés de vide autour de soi. On pourra à nouveau déjeuner en groupe, mais dans la limite de 6 personnes par table. Et la jauge de la cantine ne pourra pas dépasser 50% de sa capacité normale.
La pagaille la nuit dernière dans plusieurs centres d'appel d'urgence, dont le SAMU, les pompiers et la police, après un problème technique d'Orange. L'opérateur annonce un retour à la normale depuis minuit, mais le réseau reste sous surveillance. En déplacement en Tunisie, Gérald Darmanin a dû abréger son séjour pour rentrer en France. Il préside en ce moment une visioconférence avec les préfets.
7h33 sur Europe 1. On va maintenant parler d'un stock de drogue qui est sans doute parti en fumée, mais certainement pas de la bonne façon.
Oui, ça se passe à Dijon. 6 personnes ont été mises en examen pour trafic de stupéfiants et détournement de scellés. En fait, Justin Morin, ils auraient récupéré du cannabis censé être incinéré sur ordre du procureur pour le revendre ensuite.
Oui, au départ, les policiers ont été alertés par un courrier anonyme, c'était il y a un peu plus d'un an. Des employés de l'incinérateur de Dijon auraient trouvé une faille dans la procédure pour récupérer une partie de la drogue saisie lors des enquêtes, censée être brûlée. On ne le sait pas forcément, mais chaque année, le procureur de la République ordonne régulièrement la destruction de ces scellés. Ça évite que les salles de stockage soient envahies par des ballots d'herbe. Les investigations ouvertes dans la foulée par la police judiciaire de Dijon confirment le signalement. Entre novembre 2020 et avril 2021, en 5 mois, jusqu'à 280 kilos d'herbe de cannabis seraient sortis du circuit d'incinération pour être revendus. Parmi les 6 personnes mises en examen, 4 travaillaient au sein de l'usine et connaissaient son fonctionnement. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Lors des perquisitions, des dizaines de kilos de drogue et des dizaines de milliers d'euros en liquide et sur des comptes bancaires ont été retrouvés. Les investigations se poursuivent, mais le procureur l'assure. La faille dans la procédure d'incinération des scellés a bien été identifiée et colmatée.
Justin Morin. Et en parallèle, on apprend dans Le Parisien ce matin que plus d'un Français sur deux est désormais favorable à la dépénalisation du cannabis. La légalisation sous contrôle de l'État est également plébiscitée.
Le tennis à Roland-Garros avec les 4 derniers Français encore en lice sur les courts aujourd'hui.
Et mon fils Féro Mladenovic et Gasquet qui a hérité pour le deuxième tour du maître des lieux Raphaël Nadal. Ce sera en session nocturne à partir de 21h. Des retrouvailles entre deux joueurs qui se connaissent bien. Axel May.
Pour ses 35 ans, Rafael Nadal va passer sa soirée d'anniversaire sur le court central, sans public, couvre-feu oblige, mais avec une vieille connaissance, Richard Gasquet, de 2 semaines son cadet. Adversaires sur les terrains de tennis, amis dans la vie, Richie et Rafa se connaissent depuis l'enfance. Et même s'il sait que ses chances de victoire sont proches du néant, 16 rencontres sur le circuit ATP toutes perdues, le natif de Béziers se réjouit de ses retrouvailles sur la terre battue parisienne.
C'est du kiff, voilà, tout simplement. C'est fabuleux pour moi de me retrouver à le jouer. J'ai joué la première fois en 2005. C'est peut-être le plus grand joueur de tous les temps. 13 fois Roland-Garros. Bon, on le sait, on l'a dit des centaines de fois. Ça devient même fatigant de le dire à la longue. Voilà, donc je suis heureux de le jouer. J'ai envie de faire un grand match.
Bref, Richard Gasquet, malgré la frustration de ses défaites à répétition, entend prendre du plaisir ce soir et profiter de son 18e Roland-Garros qui sera peut-être aussi, comme il l'a laissé entendre, son dernier.
Et puis la NASA va mettre le cap sur Vénus d'ici 2030 avec deux nouvelles missions d'exploration de la planète la plus chaude du système solaire. Et l'objectif est en fait de comprendre la différence entre son atmosphère infernale et celle de la Terre, sa voisine devenue habitable.
Et c'est la planète effet de serre, Vénus, oui. Mais c'est la plus chaude, plus que Mercure ?
Et Mercure n'a pas d'atmosphère, c'est pour ça.
Ouf, merci Sophie Hachette, incollable ce matin. Incroyable, hein. Depuis le début du journal jusqu'à la fin, j'aurais pas réussi à la piéger. Bertrand Chameroy, la préfecture du Haut-Rhin, comme ça.
Attendez, Colmar, d'entrée.
Merci Sophie Hachette, il est 7h37 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Un 17e album de Titeuf sort aujourd'hui, La Grande Aventure. Titeuf en colonie de vacances et ce matin sur Europe 1, Zep en exclusivité, c'est le tête-à-tête Europe Matin à suivre. Mais d'abord, il est là, vous l'avez entendu, Bertrand Chameroy et son regard décalé sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, Racine Carré de 84. Ah bah voilà, moi aussi je peux vous piéger.
Oui,
hier,
c'est une bonne guerre.
Dans le Lot, Emmanuel Macron 21. A dévoilé un nouveau slogan. Et visiblement, il bosse toujours avec la même agence des années 80.
À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h40 sur Europe 1, c'est l'heure de la touchable, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, petit rectificatif avant la pub, je vous ai dit bravo quand vous m'avez dit que la racine carrée de 84 était 21, c'est parce que j'y connais rien, c'est 9,1651 et des boîtes.
Très bien, l'information voilà. D'abord.
Voilà. Jusqu'à ce soir, Emmanuel Macron est en déplacement dans le Lot, dans ce joli village au nom qui sonne comme un groupe d'enfants chanteurs qui portent des cols roulés, Saint-Cirque-la-Popie. Comment ?
Saint-Cyr-la-Popie.
Oui, c'est ça. Oui. Moi, je le prononce comme ça. Je l'ai dans la tête depuis hier, c'est infernal, faut m'aider. Donc Saint-Cyr-la-Popie, première étape du Tour de France d'Emmanuel Macron. Et cette question posée hier sur toutes les chaînes info, a-t-il déjà débuté sa campagne présidentielle ? Non, mais qu'est-ce que vous allez imaginer ? Il voulait juste prendre l'air tranquille dans un village, boire un petit kir à la fraîche. Et le hasard fait que le maire du Patelin est un fidèle soutien à l'REM, qu'il y avait suffisamment de gens pour faire un bain de foule et qu'il y avait des caméras partout. Ce sont des coïncidences. J'aimerais pas jouer au Cluedo avec les journalistes, non, ils sont trop forts. Jean-Patrick, Emmanuel Macron est à l'Aqua Boulevard en maillot et en bonnet de main. Est-ce qu'on peut en déduire qu'il va se baigner ? C'est l'hypothèse qui tient la tête, effectivement. Bien vu, Colombo. Ils sont aussi balèzes en déduction que Christian Jacob qui a déclaré ce matin dans le Figaro « Si nos candidats ne gagnent pas, ce sont nos adversaires qui vont l'emporter ». Bien vu également, une vraie citation. Alors parmi les annonces faites hier par le président, la révélation par le cercle des poètes disparus d'un nouveau slogan.
En 2021, les vacances c'est en France.
Après dedans avec les miens dehors en citoyen, voici les vacances, c'est en France. On est passé à deux doigts de en bikini, je n'oublie pas la pandémie. En juillet, je me fais dorer à l'île de Ré. Cet été, on fait griller les saucisses à Rissorangis. Depuis plusieurs mois, ils ne pondent que des slogans.
C'est vos vacances.
C'est ça, en fonction multiple. Mais c'est quoi leur objectif ? C'est remporter le concours de poésie de la RATP, de devenir publicitaire dans les années 80 ? Je ne sais pas. À propos d'Instagram, le président y a évidemment posté le slogan avec un petit visuel de circonstance. Et il a également publié des stories, une suite de mots, les paysages, la gastronomie, la fête, la France, nous. L'espèce d'un instant, j'ai cru qu'il voulait jouer à pyramide. En trois, paysage, panorama, non, fête, bamboche, France. Nous. Bravo. Mironton ou Barjabul ? Bon, je sais pas à qui on doit tout ça, mais ça ne m'étonnerait pas d'apprendre que la personne en question bosse à la com d'une marque de parfum. Les paysages, la gastronomie, la fête, la France. Nous, la nouvelle eau de parfum by Emmanuel Macron 2022.
Je crois que c'est dans toute votre panoplie, Bertrand. Je crois que c'est mon sketch préféré.
La pub de parfum.
Oui, la touchable tous les matins à 7h40. Et avec Philippe Vandel tout à l'heure à 10h dans Culture Média. Merci beaucoup, Bertrand. Il est 7h43.
Europe Matin, le 7-9.
Mon invité à présent, c'est un homme qui fait rire les enfants, qui les fait réfléchir aussi, qui fait parfois un petit peu peur aux parents, on va en parler, il faut bien le reconnaître. Zep qui publie aujourd'hui avec Europe 1 La Grande Aventure chez Glénat, 17e album des aventures de Titeuf. Et tout y est, du zizi sexuel, du c'est pas juste, mais aussi des questions d'actualité. On parle BD et enfance avec Zep ce matin sur Europe 1.
Le tête-à-tête, Mathieu Béliard.
Bonjour Zep.
Bonjour.
Alerte au coup de vieux. Titeuf, sa mèche blonde, ses copains, ses blagues, tout à fait au niveau d'un enfant de 10 ans. Eh bien, Titeuf approche la trentaine. J'ai découvert en préparant l'interview que le premier album, c'était en 1993.
Eh oui.
Dans Le Parisien, ce matin, on voit certains de vos lecteurs. Dorian, 22 ans, Mathieu, 30 ans, Thomas, 28 ans. En fait, ils ont grandi avec votre personnage.
Mmh. Ouais, c'est assez sympa. Il y en a même qui sont plus âgés, qui viennent en dédicace avec leurs enfants.
On se transmet Titeuf.
Voilà, c'est ça, c'est assez cool d'avoir un personnage comme ça qui est transmis de génération en génération.
Alors Titeuf, en réalité, il a toujours 10 ans. Hein, et dans ce nouvel album, il part en colonie de vacances. Cette fois, je le disais tout à l'heure, Mathieu Charrier en a parlé aussi, ce n'est pas une collection de sketchs, de mini-histoires. Vous avez fait le choix d'un album long. Par contre, avec les albums de Titeuf, d'ordinaire, c'est vers la rentrée scolaire. Là, vous sortez avant l'été. Il y a une raison particulière.
C'est la thématique, en fait. D'habitude, Titeuf est toujours dans un milieu urbain. Les histoires se passent majoritairement à l'école. Donc, on s'était calé sur cette date de fin août, juste avant la rentrée scolaire, que personne ne voulait à la base. Et puis, on est resté là. En fait, c'était une espèce de rendez-vous avec les lecteurs. Comme là, on parle de colo de vacances, on s'est dit que c'était plus sympa de sortir au moment où les enfants vont partir.
Et puis, ils vont partir en plein air, hein, ces colonies de vacances. La colo, pas de Covid, pas de masque, on est en plein air. Hein.
Je pense qu'on avait besoin. Ouais.
Vous n'avez pas envie d'en parler ?
En fait, j'ai commencé à écrire l'album au mois de février 2020, donc avant que tout cela arrive. Et puis, comme souvent, Titeuf est beaucoup utilisé pour faire de la prévention, de la communication. Donc j'ai fait beaucoup de dessins de Titeuf avec des masques. Et j'étais bien content d'avoir ce projet à côté qui était une espèce de vacances par rapport à tout ça. Enfin, et pendant toute la réalisation de l'album, on n'imaginait pas que cette histoire de pandémie allait durer aussi longtemps. On pensait que ça partirait très vite. On y est toujours.
Non, mais cela dit, c'est agréable à lire. Et puis, pour tout vous dire, on a feuilleté avec les enfants aussi. Et on ne parle pas de masque, on ne parle pas de Covid. Ça fait du bien aussi, c'est important en ce moment. Pourtant, on n'a toujours pas peur des sujets qui fâchent. Hein. Sexualité chez ces tout petits prépubères, évidemment, mais aussi écologie, féminisme. On y parle homosexualité, on y évoque MeToo. Finalement, on parle pédophilisme. Ça, j'ai retenu l'expression. Notre corps nous appartient, dit Titeuf. Il n'y a pas de sujet tabou.
Non, parce qu'il n'y a pas de sujet tabou chez les enfants entre eux. Je pense que quand on a l'âge de Titeuf, on a chaque question, elle a besoin d'être débattue avec ses copains. Alors on ne va pas forcément en parler avec ses parents ou avec les profs, mais on en parle entre nous. Et comme souvent, il manque de pas mal d'éléments d'information, l'imaginaire remplace tout ça. Et Titeuf fait des théories qui ne tiennent pas très très bien la route. Mais souvent, je trouve que c'est une bonne porte ouverte à discuter de ça avec les enfants. Parfois avec les enfants, quand parents et enfants lisent l'album. Et puis, au fond, ce que ça dit, c'est que l'une des plus belles qualités de l'enfance, c'est la curiosité. C'est qu'on grandit en apprenant et en se posant plein de questions.
Il y a pu, à une époque, y avoir des réserves du côté des parents. On peut en reparler, le guide du zizi sexuel dans les années 2000. Est-ce que le regard des parents a changé ? Est-ce qu'ils ont toujours un petit doute devant un album de Titeuf ?
Je pense que c'est gentiment en train de devenir institutionnel. Mais je regrette presque cette période, j'aimais bien. Je trouve que ça crée un débat intéressant aussi sur ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et chacun a sa propre limite. À partir du moment où c'est un personnage qui parle, il a le droit de. Enfin, il faut que ce soit cohérent dans la bouche du personnage. Pour moi, tout était cohérent dans la bouche de Titeuf. Je ne l'utilisais pas pour tenir un discours militant ou qui était mon propre discours. Je faisais parler cet enfant de la manière qui me semblait le plus naturelle.
Cela dit, malgré vous, en politique, j'ai découvert ces extraits vidéo de Jair Bolsonaro pendant la campagne présidentielle brésilienne. On l'entend derrière moi. Alors, il tient votre guide du zizi sexuel traduit en portugais pour le Brésil. Il parle d'un kit gay. On apprend la pédophilie à nos enfants. C'est incroyable de voir Titeuf utilisé à ces fins-là dans un autre pays.
Ouais, d'autant plus étonnant que... Enfin, il n'avait pas beaucoup de programme politique, ce monsieur. Et un des éléments de son programme politique, c'était de partir en guerre contre le guide du zizi sexuel, ce qui est quand même assez anecdotique à l'échelle du Brésil. Mais il a fait campagne, il a fait des plateaux télé avec ça. Pendant 2 ans, il est parti en guerre contre ce bouquin.
Le guide du zizi sexuel qui était j'arrive même pas à le dire, ça doit être pour les enfants. Je ne mesurais pas du tout.
En portugais, mais
j'arrive à l'écrire, je me suis rendu compte en préparant que j'arrivais pas à le dire. J'aurais parlé des enfants d'aujourd'hui. Je vous ai lu, Zep, vous disiez il y a 20 ans, 2/3 des élèves bouquinaient des BD au sens très large. Ça pouvait être des mangas, mais ils lisaient. Ce nombre aujourd'hui est réduit à 1 ou 2 par classe. En fait, aujourd'hui, vous êtes en concurrence avec le smartphone.
Ah ouais, carrément. Ouais. Le livre, en général, est en concurrence avec le smartphone. Et c'est une nouvelle donne. Alors après, ça dépend aussi des milieux. Il y a des endroits où les enfants lisent plus, mais majoritairement, ce réflexe du livre, d'ouvrir un livre, c'est quelque chose d'assez exotique pour les enfants aujourd'hui. Et moi, je pense que beaucoup d'enfants connaissent Titeuf plus par le dessin animé que par les albums. C'est comme ça, c'est une évolution...
Vous la déplorez ?
Bah, bien sûr, je regrette, parce que moi j'aime faire des livres et je trouve que c'est quelque chose qui est... On apprend la fiction à travers le livre, c'est un objet de compagnonnage, on l'a avec soi, on peut le prendre quand on veut, et puis on sait quand on lit un livre, on imagine les voix, enfin on fait aussi tout un travail créatif, chaque personne lit son livre différemment, le livre il devient différent avec chaque lecteur. Et c'est pas quelque chose qui est remplacé par le smartphone. Le smartphone, il offre plein de choses, mais cet imaginaire-là, il est créé par le livre. Et si le livre disparaît, ouais, ce serait vachement dommage.
Merci beaucoup, Zep. Merci d'être venu nous présenter La Grande Aventure, le 17e album des aventures de Titeuf. Je disais, il y a tout, hein, zizi sexuel, c'est pas juste. Il est alors non pas amoureux de sa maîtresse, mais de sa mono de colonie de vacances désormais. Et puis pour le reste, je ne raconte pas, vous lirez, vous tournerez les pages de cette bande dessinée. Merci Zep d'être venu nous la présenter sur Europe 1. Je rappelle que nous sommes partenaires de la sortie de La Grande Aventure chez Glénat. À bientôt.
Merci.
7h49 sur Europe 1. À suivre.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'édito politique Nicolas Bétou qui s'installe à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h52 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est une interview qui a fait pas mal de bruit dans le petit monde des médias. Un conseiller politique d'Emmanuel Macron propose dans votre journal que le décompte des temps de parole à la télévision soit modifié.
Oui, c'est Stéphane Séjourné qui parle. Il est président du groupe des députés En Marche au Parlement européen et conseiller politique en titre du chef de l'État. Autant dire que sa parole n'est pas anodine et qu'elle reflète une vraie inquiétude au sommet du pouvoir.
Alors, qu'est-ce qui les inquiète exactement ?
La montée en puissance de la chaîne d'info CNews et le succès grandissant de ses programmes de débat. Leur préoccupation, c'est les cartons d'audience faits par des journalistes comme Pascal Praud ou Éric Zemmour qui débattent, donnent leur avis et impriment à cette chaîne un ton univoque considéré comme populiste et totalement à droite. Leur reproche, c'est qu'à l'antenne, ces éditorialistes remplacent de plus en plus les politiques et que le pluralisme des expressions n'est donc plus assuré.
L'idée de Stéphane Séjourné, c'est donc de décompter le temps de parole des éditorialistes en fonction de leur couleur politique.
Voilà, c'est une idée invraisemblable et d'ailleurs déjà rejetée par le CSA. Mais peu importe, pour le conseiller politique d'Emmanuel Macron, il faudrait décompter les temps de parole des éditorialistes, les plus engagés. Si le propos d'un journaliste ou d'un expert est fade, neutre, sans aspérité, c'est OK. S'il est militant, s'il a un avis tranché, alors son expression devrait s'imputer sur le créditeur de la formation politique dont il est supposé être proche. Leur premier problème, qui va décider qu'un journaliste est plus engagé ou moins engagé ? Deuxième problème, à partir de quand faut-il l'interdire de parole ? Troisième problème, pourquoi s'émouvoir aujourd'hui alors qu'on sait tous que, au hasard, dans le service public, certaines antennes sont ouvertement militantes, mais de gauche, ce qui doit être plus supportable. Donc vraiment, cette police de la pensée, cette façon de trier les idées et de faire de la télé avec un sablier, c'est vraiment un truc hors d'âge.
Hors d'âge, c'est-à-dire ?
Mais contrairement à ce qui se passait au siècle dernier, il y a aujourd'hui au moins 4 chaînes d'infos en continu en France, plus des réseaux sociaux sur lesquels les opinions sont libres de s'exprimer. Les temps de parole, c'est complètement dépassé. Pourquoi ne pas laisser chaque canal choisir le positionnement politique qui lui plaît et qui plaît à ses téléspectateurs ? À charge pour le gouvernement, bien sûr, d'aller défendre ses idées face à ses polémistes, de prendre, lui, la parole plutôt que de la limiter pour d'autres. Au siècle dernier, David Lloyd George, Premier ministre britannique, disait drôlement « Un politicien, c'est un individu dont les opinions sont contraires aux vôtres. S'il a les mêmes idées que vous, alors c'est un homme d'État. » Voilà, cette maxime n'a vraiment pas vieilli.
Et je précise, Nicolas Bétou, que Roch-Olivier Maistre, le président du CSA, sera l'invité de Philippe Vandel dans Culture Média entre 9h et 10h. Tout à l'heure, à l'origine, pour parler des 100 ans de la radio, mais j'ai vu Philippe avant la matinale, il va lui en parler, évidemment. Merci Nicolas Bétou. Votre édito tous les matins, c'est sur Europe 1, 7h55. Et tous les jours avant 8h, Nicolas Canteloup conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Rassemblement National. Eh bien tiens, c'est Pascal Praud qui voulait intervenir.
Oui, bonjour cher Mathieu Béliard, cher Laurent Carole. Quelle fierté pour moi ce matin d'être le sujet de la chronique de notre cher Nicolas Bétou. Bonjour à tous, vous qui nous écoutez. En tout cas, vous recevez sur Europe 1 ce matin Sébastien Chenu, le candidat du Rassemblement National contre Xavier Bertrand, le candidat socialiste. Enfin, oui, vous souriez, c'est vrai que c'est un petit peu exagéré. Je sais, cher Mathieu, cher Nicolas Bétou, je vois dans votre regard que je suis un peu injuste avec Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, donc le candidat, je rectifie, le candidat communiste.
Au moins.
Votre invité de ce matin peut-il le battre? C'est la question que nous poserons. On va appeler, tiens, Marine Le Pen pour avoir son avis sur Sébastien Chenu, le candidat centriste. Marine Le Pen, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Pro. Écoutez, je pense que tout cela est dépassé. Vous savez, pour les gens, nos deux partis, le parti de monsieur Chenu et monsieur Bertrand, sont devenus quasiment identiques. Voilà, bon, je vous laisse. Je dois faire sauter les digues entre LR et RN. Ah, ça se démolait à une vitesse, vous ne pouvez pas savoir.
Nicolas Gondelot, qui conseille l'invité politique de la matinale tous les jours à 8h15. Sébastien Chenu et la revue de presse à 8h45 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous, il est 7h57. À 7h59, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Un temps qui, lui, ne change pas trop par rapport à hier. C'est un temps toujours orageux, bien sûr. Alors, les températures seront très douces aujourd'hui, voire chaudes. 23 à 29 degrés, 29 à Lyon, 28 à Paris, 27 à Toulouse et 26 à Marseille. Ce sont des températures repères que je vous donne avec des orages qui se manifestent sur le littoral atlantique en ce moment, ou en tout cas qui commencent à se manifester. N'exagérons rien. Vous savez, les orages sont très ponctuels en ce moment. Il ne s'agit pas d'orages, de zones orageuses très intenses. Hein. Donc, ils éclatent ici ou là, mais jamais en cœur, si je puis dire. Sur la vallée de la Loire, la région parisienne, le Limousin et le Midi-Pyrénées, c'est un matin relativement calme, matinée, nuageuse, et puis ensuite quelques orages aussi. Sur le nord, la Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace et Bourgogne, des averses qui seront un peu plus violentes. Et puis sur la Franche-Comté, la région lyonnaise et le bassin méditerranéen, des éclaircies. Voilà, pour dans ce qui concerne la suite, eh bien, nous aurons demain pratiquement le même type de temps, et puis ça va se calmer un petit peu de samedi-dimanche. Hein. Nous aurons beaucoup moins d'intempéries, beaucoup moins de nuages.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.